qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Bonjour Alina, je suis ravie d'être ta host sur ce Offcast. Tu es l'animatrice du podcast BioInspi, le premier podcast français qui vulgarise le biomimétisme et la bioinspiration à travers des histoires d'êtres vivants hors du commun, bactéries, bêtes en tout genre et plantes. Alors, comme souvent dans le podcast, la thématique n'arrive pas par hasard, puisque tu es biologiste spécialisée en ethnobotanique et primatologie. Exactement. Alors, au Québec, on a une expression qu'on utilise quand on n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Ça mange quoi en hiver, une ethnobotaniste? On comprend que c'est la contraction d'ethnologie et de botanique, mais concrètement, ça consiste en quoi? Parle-nous un petit peu de ton métier.
En fait, ethnobotanique, c'est vraiment un mot qui va désigner la relation qu'on va entretenir en tant qu'humain avec les plantes. Donc, ça peut aussi bien couvrir tout ce qui est usage traditionnel du bois quand on construit des objets. Mais moi, dans mon cas, c'est vrai, comme tu l'as dit, je suis biologiste et mon intérêt, c'était de comprendre plutôt comment est-ce que les plantes peuvent nous apporter un bénéfice sur plan nutritionnel, sur plan médical. Et donc moi, quand je me suis formée à l'ethnobotanique plus tard dans mon parcours, j'avais un background déjà biologiste, mais je suis allée à l'Université de Lille pour avoir un petit complément sur mener des enquêtes ethnobotaniques. Et concrètement, ça voulait dire aller pouvoir poser des questions à un public en particulier et comprendre ce qu'il mange, par exemple, ou ce qu'il consomme en cas de problématique médicinale par voie orale ou par voie topique, et en tirer des conclusions. Donc, ça t'amène à créer des enquêtes de manière bien cadrée et être sûr que tu n'influences pas ton interlocuteur. Et dans mon cas de figure, ça me sert dans le cadre de mon poste, puisque je vais pouvoir enquêter sur notamment une population particulière qui sont les centenaires. Donc je m'intéresse en fait à la manière dont dans certains pays on va vivre mieux et plus longtemps. Et il y a des zones qu'on appelle des zones bleues. Donc c'est le cas à Okinawa, Costa Rica, Sardaigne, où tu as des centenaires qui ont... Donc déjà il y a 5 fois plus de centenaires, jusqu'à 5 fois plus de centenaires qu'ailleurs. Et en plus ils vivent en parfaite santé. Donc là j'ai forcément profité de ce background-là pour faire des enquêtes, comprendre qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils se nourrissaient. Quels étaient les usages traditionnels, comment est-ce qu'ils vont utiliser une plante quand ils ont une pathologie, quand ils ont des maux de ventre, quand ils ont des brûlures. Et j'essaye d'en tirer des conclusions avec les molécules qu'il y a à l'intérieur des plantes.
Ok. Et en gros, ton boulot, ça consiste à identifier des innovations à partir de l'observation de la nature et des humains, d'après ce que je comprends, et à les mettre au service de différentes industries, comme par exemple celle du bien-être ou des green tech.
Tout à fait. Oui, en fait... Depuis 10 ans, là, ce que je fais, c'est exactement ça, c'est d'aller comprendre comment on peut identifier des nouvelles molécules d'intérêt au sein des plantes, mais aussi, par exemple, dans les bactéries vont produire certaines molécules aussi d'intérêt. C'est vrai que je suis très spécialisée végétale et effectivement, je vais mettre en place la stratégie d'innovation pour un groupe qui est à la base pharma, mais qui a aussi donc, des applications cosmétiques pour comprendre aussi quelle est la biologie associée, donc plutôt sur le plan cutané, la peau. Et mon métier, c'est tout à fait ça, c'est de m'inspirer du vivant. Donc, moi, ce que je mets sous le grand chapeau du biomimétisme, effectivement, est de comprendre Comment est-ce que le fait d'observer une plante, un animal, un comportement donné peut nous inspirer à trouver des nouvelles molécules et à donc fournir ces molécules-là pour, auprès d'un marché potentiellement intéressé par ce genre d'histoire et de concept et de molécules actives.
Ok. C'est quoi les domaines d'application du biomimétisme?
Il y en a énormément, vraiment. Je dirais que plus. Enfin, moi, ça fait un moment que je m'y intéresse, mais en fait, je découvre tous les jours des nouveaux champs d'application. Ceux pour lesquels on a quand même beaucoup de recul. En médecine, tu as énormément d'applications. Tu peux imaginer pour soigner les humains beaucoup, beaucoup d'applications, que ce soit dans le design des lames chirurgicales, dans les molécules qui peuvent soigner. Tu as aussi, par exemple, en astronomie, des personnes qui s'intéressent à certains êtres vivants. Je pense au cas de l'ours brun. Pour comprendre comment est-ce qu'il fait pour rester en bonne santé en hibernant et en restant immobile des mois, ça peut inspirer des chercheurs qui veulent faire pareil avec des astronautes qui sont à l'état immobile pendant plusieurs jours et qui ont parfois des séquelles en revenant. On a aussi des applications en architecture. On s'inspire de grandes termitières, de certaines plantes qui ont une géométrie particulière pour créer des buildings. Enfin, vraiment, il y a énormément d'applications. Je peux te donner un exemple qui est extrêmement connu. C'est l'exemple du scratch, que tu appelles aussi le velcro. Et en fait, concrètement, c'est un homme qui se balade avec son chien et qui a vu en revenant de cette balade-là qu'il avait plein de graines de bardane. Et en fait, c'est des graines qui s'accrochent aux poils, effectivement, des animaux. Et ça l'agaçait, donc tous les soirs, il les retirait. Et en fait, ça lui a donné l'idée quand même d'une application où il y aurait d'un côté des pics qui seraient inspirés du pic de la plante et le velours, le poil qui serait inspiré du poil du chien. Et en fait, ça a donné cette application, ce matériel que tu connais très bien, que tu as dû voir sur des baskets ou ailleurs.
Oui.
Le matériel qui va vraiment être râpeux, le matériel qui va être doux. Donc, vel pour velours, croc pour crochet. Et donc, ça a donné le velcro.
Ok, super intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça? Moi, j'en avais un en tête, c'est Waze, l'application Waze, inspirée du comportement des fourmis, si je ne m'abuse. Est-ce que tu
ouais,
pourrais
tout à fait.
nous...
Tu as des applications effectivement qui s'intéressent à la manière dont certains animaux sont capables de se repérer dans l'espace. Tu as des robots qui ont été faits d'ailleurs avec ça. Tu as beaucoup, beaucoup d'applications aussi associées, comme je te le disais, à la construction d'immeubles. Tu peux aussi chercher à ventiler des immeubles à la manière dont certains animaux vont s'auto-ventiler aussi grâce à des structures qu'ils vont construire. Tu as aussi tout ce qui concerne un peu plus le design de certains transports, donc notamment le Martin Pêcheur, tu sais qu'il y a vraiment un design particulier au niveau du bec, donc ça a inspiré aussi beaucoup de transports pour avoir cet effet aérodynamique. Tu as le Blob qui a inspiré aussi énormément d'aspects sur la question des réseaux. Lui, il est capable de créer des réseaux à proximité et de créer des chemins les plus courts entre deux distances, enfin deux points donnés, donc tu es capable de créer un réseau optimisé. Donc il y a énormément d'applications, c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que je pense qu'on n'en a pas découvert un pourcentage d'ici, enfin c'est vraiment très très faible aujourd'hui notre niveau d'avancement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soit du côté recherche académique ou recherche privée, il y a un énorme engouement et en fait on devrait assister à une explosion de ces résultats, enfin moi je l'espère.
Tu as une matière infinie pour ton podcast alors?
Clairement, moi ce qui est rigolo, c'est que parfois c'est moi qui cherche directement une idée, c'est un animal ou une plante en particulier qui m'inspire parce que je sais qu'il y a des applications qui existent. Parfois c'est les auditeurs qui choisissent un sujet et là je me dis mais est-ce que quelque chose existe? Enfin, des fois je m'inquiète, je me dis ça se trouve rien n'a été fait et je te dirais qu'à ce jour j'ai pas encore eu vraiment de cas de figure où il y avait absolument rien. Tu as des espèces pour lesquelles c'est encore léger, on sent que c'est pas encore une espèce qui a fasciné des chercheurs. Voilà, à ce jour, pour autant, tu as toujours un potentiel, une particularité qui te laisse entendre que si un jour une équipe choisissait de s'y brancher, bah, elle finirait par trouver quelque chose.
Ok. Est-ce qu'il y a un domaine que tu rêves d'investir à travers le biomimétisme, justement?
Alors, dans le biomimétisme, la notion que tu as quand même qui est un petit peu sous-jacente, c'est que c'est pas uniquement trouver l'idée, s'en inspirer et faire un projet qui arrange une entreprise ou une industrie, il y a quand même l'idée de rétribuer au vivant. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, beaucoup de projets sont là pour à la fois innover et protéger le vivant. Moi, c'est vrai que je suis de plus en plus en attente aussi, peut-être qu'on ait des réponses du vivant pour résoudre un peu les problèmes dans lesquels qu'on a créé nous-mêmes ces dernières années. Donc, il y a plusieurs mots derrière ça. Il y en a qui parlent de géomimétisme. C'est un mot qui a pu être donné il y a quelques années pour ce phénomène-là. C'est s'intéresser à trouver des solutions pour combattre les problèmes qu'on a aujourd'hui face au changement du climat, face à la chute malheureusement de la biodiversité grâce au biomimétisme. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli et ça commence à bien s'instaurer aussi. Il y a quelque chose d'assez joli de se dire qu'on s'inspire du vivant pour trouver des solutions à des problèmes que malheureusement on a engendrés, mais qu'on va peut-être être capable de solutionner ou au moins d'atténuer pour les prochaines années.
Petite question comme ça intéressée, puisque j'anime un podcast qui a pour mission de démystifier la philanthropie. Est-ce que ce serait deux disciplines qui pourraient se croiser, le biomimétisme et la philanthropie, par exemple? Est-ce que tu as des exemples en tête?
C'est une super question. Est-ce que par là, je vais essayer d'y répondre comme ça, sans y avoir forcément déjà réfléchi, mais est-ce que pour toi, si on imagine que le biomimétisme puisse nous faire trouver des solutions dans la manière dont on communique, dans la manière dont on crée une forme de solidarité entre espèces, est-ce que ça peut répondre ouais,
Oui.
à ce genre de sujet?
Oui.
Dans ce cas-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, vraiment, parce que ne serait-ce que dans des disciplines qui sont plus proches du management, je vois énormément de personnes, se pencher sur ce sujet-là. Un des phénomènes sur lesquels je les vois le plus travailler, c'est souvent sur les êtres vivants sociaux. Donc, ils vont s'intéresser, il y a beaucoup d'insectes que tu dois connaître, notamment côté fourmis, mais côté abeilles, côté guêpes. Il y a beaucoup de communautés, qui sont capables de créer vraiment un réseau intelligent et d'être solidaires et de sortir vainqueur en groupe plutôt que de manière individuelle. Je le vois aussi dans des groupes sociaux chez les primates, forcément, c'est mon petit sujet de prédilection depuis que je suis toute petite, mais je vois quand même beaucoup de personnes se pencher sur la thématique et se poser la question de savoir si on ne peut pas le transposer déjà en termes de management au sein d'une entreprise, d'une équipe, mais de manière plus globale, j'ai déjà vu des villes, enfin des programmes politiques, voir si on ne pouvait pas aussi s'inspirer de ça pour créer au sein d'une ville des réseaux plus intelligents entre structures, entre individus. Donc, je dirais qu'il doit y avoir quand même une passerelle.
Ok, intéressant à
La voir
explorer.
comme ça, de prime abord, ça me paraît pas du tout être de discipline incompatible, bien au contraire, parce que tu t'intéresses plutôt à la manière dont toi-même tu interagis avec d'autres espèces, mais comment elles interagissent entre elles, et c'est quand même pour moi un des piliers de ce que toi tu. Des sujets qui t'animent, j'imagine.
Exactement, la relation qu'on entretient avec les autres finalement. Ok, bah écoute, à creuser, on s'en reparlera
Bah oui,
certainement
avec plaisir.
à un autre moment. Alors toi, tu travailles pour Sequence. Qu'est-ce que tu fais pour eux? C'est quoi ton rôle dans la boîte?
Alors, mon poste, c'est d'être responsable de l'innovation et de la com scientifique. Donc, moi, j'ai été avant ça, j'étais responsable de la recherche et du développement. Donc, j'avais vraiment au sein de l'entreprise un rôle d'aller développer tous les nouveaux extraits végétaux, de trouver les idées, de les mettre en place, de faire l'extraction à partir de plantes, trouver les molécules, la biologie associée. C'était un rôle qui était vraiment très, très complet. Là, aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a été proposé et ce qui est génial, c'est d'aller me concentrer sur l'amont, c'est-à-dire vraiment. Je devais à la fois avoir les idées et le côté opérationnel. Là, c'est vrai que je suis de plus en plus, on va dire, libérée du côté opérationnel quotidien. Et je suis très concentrée sur trouver des nouveaux concepts scientifiques, voir quelles histoires on a envie de raconter scientifiquement aussi autour de nous. Et donc, ça me permet d'avoir un regard très tourné vers le futur pour l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment pour la casquette, on va dire, innovation. Et pour le volet purement communication scientifique, ça consiste en fait à vraiment rédiger tous les papiers scientifiques, les posters, assurer les conférences à l'international pour vraiment valoriser tout ce qu'on est capable de faire et de vraiment créer je ne parlerai pas de vitrine scientifique, le terme que je cherche, c'est plutôt de nous donner une certaine forme de consistance et de cohérence scientifique quand on s'adresse à différents acteurs et donc d'avoir un peu en charge cette ligne-là, qu'on ne s'éparpille pas sur une cinquantaine de thématiques. Parce qu'au final, tu as plus de message vraiment clair qui est délivré, mais d'aller vraiment se concentrer sur des gros sujets que j'aurais choisis donc en amont, en lien avec les équipes, et d'aller vraiment creuser ça et de nous créer une certaine forme d'expertise. Et c'est finalement là-dessus que nous, on arrive aussi en partie à se différencier.
Ok, donc finalement, toi, tu es passé autant par la recherche de laboratoire que de la recherche sur le terrain. C'est assez
Exactement.
complet finalement. Est-ce que tu
Ouais,
te
tout à fait.
considères, ouais, est-ce que tu te considères comme une sorte de biologiste prospectiviste?
Écoute, j'ai jamais mis ce terme-là, mais il convient plutôt à ce que je fais. Ouais, il y a effectivement cette idée de prospection, le mot qu'on sort souvent dans les termes, tu sais, en anglais, c'est le scouting. Il y a un peu ce côté genre aller un peu chercher en amont. C'est tout à fait ça. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait des allers-retours en fait entre ce que j'appelle la recherche vraiment fondamentale, appliquée, et de la recherche plus en amont de terrain. Moi, j'ai commencé par de la recherche vraiment fondamentale. Je voulais être biologiste et comprendre de manière très très approfondie quelles sont les molécules végétales associées à tel phénomène, etc. Finalement, je me suis dit la recherche appliquée, comprendre mieux comment est-ce qu'on peut les extraire ces molécules, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire d'un point de vue biologie, donc avec un travail plutôt en laboratoire privé. C'est ça qui m'a ensuite attirée. Et là, je dirais que depuis 3-4 ans, je reviens à un rôle un peu plus encore en amont, où c'est ni de la recherche poussée sur les plantes en les explorant dans leur composition, mais en allant chercher en amont en quoi elles ont un rôle sur Terre, quelles relations elles entretiennent avec les hommes, les animaux, puisque je m'intéresse à la manière dont les animaux se soignent en mangeant certaines plantes. Donc, c'est ce que j'appelle moi plutôt de la recherche fondamentale, puisque c'est d'aller vraiment découvrir des phénomènes et d'aller réenquêter, ce dont on parlait tout à l'heure sur les enquêtes ethnobotaniques, sur des infos en plus qui risquent de se perdre. L'ethnobotanique, la beauté de cette discipline, c'est que c'est aussi une façon de s'assurer qu'on ne perde pas ces messages-là et ces connaissances-là. Et quand je m'adresse à des centenaires, bah malheureusement, dans leur famille, il n'y a plus grand monde. Enfin, ils sont très entourés. Hein. Ce sont des populations généralement qui ont un cadre familial, mais peut-être pas un temps de parole comme on a pu nous avoir avec nos grands-parents. Donc, c'est peut-être potentiellement des savoir-faire qu'on risque de perdre.
Oui, c'est comme du patrimoine immatériel, quoi.
Exactement.
Alors, Aïna, on va parler à présent de ton podcast. Ta première saison a été sponsorisée par Sequence, donc l'entreprise pour laquelle tu travailles, par Biomim Expo et Premium Beauty News. Est-ce que ton podcast est le fruit d'un projet intrapreneurial avec ta boîte ou est-ce que c'est un projet perso?
Alors en fait, je dirais que c'est un petit peu des deux. C'est un projet moi, que j'avais envie de faire depuis un certain moment. Vraiment, c'est le sujet du biomimétisme me fascinait. Je voyais bien quand même que ça parlait aux personnes à qui j'en parlais autour de moi. Quand j'évoquais ce sujet-là, je sentais quand même que ça faisait écho. Donc je m'étais dit, il y a aussi un potentiel de vulgarisation assez large. Donc ça me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années, sauf que je pense que j'avais peut-être une vie qui s'était remplie de manière à ce que je puisse pas créer ce projet-là en parallèle. Et franchement, le déclic s'est fait au moment du confinement. Là, le premier confinement en mars 2020, j'ai eu 2 semaines de vacances en fait confinées. Et j'ai eu un mélange d'angoisse de mais comment je vais remplir mes journées pendant 2 semaines à pas pouvoir sortir. Et en fait, très vite, ça a été un peu pour moi le dénouement. En fait, t'as plus d'excuses, quoi. Ça y est, c'est un projet que tu voulais faire. Tu savais pas par quelle boule prendre quand le démarrer. Donc, j'ai profité de cette pause un peu obligée pour le créer, le mettre en place, écrire des premières choses assez rapidement. Et je voulais aussi en faire un peu bénéficier l'écosystème dans lequel j'étais. Donc, bien sûr, mon entreprise qui me laissait déjà travailler sur ces sujets-là et qui a tout de suite été partante pour que je prenne la parole sur ces sujets-là, puisque ça faisait sens par rapport à nos thématiques de recherche. J'ai aussi été vachement soutenue par la Biomim Expo, donc, qui est cette fameuse expo de référence chaque année sur le biomimétisme. Donc, c'est porté par Alain Renaudin, qui est vraiment un passionné de biomimétisme. Et dès que je lui ai parlé du sujet, il m'a dit, ah, mais nous, on te suit à 2000% aussi. Et c'est un média aussi qui s'appelle Premium Beauty News qui m'a dit que ça pouvait faire sens aussi pour eux d'être associés à ça. Ils avaient aussi envie de s'exprimer sur des sujets autres que uniquement la beauté. Donc, disons que c'est vraiment moi qui ai porté le sujet et c'est un support qui est, on va dire, qui est plus de l'ordre de on te suit. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel j'ai quand même beaucoup de liberté d'initiative. Mais ça m'a aidé, je crois, aussi à me lancer.
Ok. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, quand tu as la chance de démarrer ton podcast avec déjà des sponsors, d'abord, c'est assez rare. Et puis, ce que je comprends, c'est que c'est arrivé assez naturellement du fait de ton appartenance à l'écosystème. Et puis, ça s'est fait très rapidement, quoi.
Ouais, je sais pas si tu as la même perception que moi de ce format-là. Le podcast, en fait, on sait que c'est pas un format sur lequel. Enfin, les formats qui ont vraiment tenté d'être uniquement basés sur du positionnement de marque et de vraiment générer une publicité trop visible, c'était franchement pas des formats qui prenaient beaucoup auprès du public parce que On est saturé de pubs, que ce soit sur nos ordinateurs, à la télévision pour ceux qui l'ont ou à la radio. Donc c'est vrai que le podcast, c'est un format un peu libre et sur lequel je pense qu'il y a peut-être effectivement encore aujourd'hui une certaine forme de liberté et de caractère formel-informel qui permet un peu aussi de se dire qu'on prend la parole de manière un petit peu moins sérieuse. Je ne sais pas si c'est le terme, je ne sais pas quelle est ta perception des choses, mais moi, ouais, tu peux plus laisser libre cours à une certaine forme d'imagination, d'imaginaire au global. De tonalité, de ton que tu vas de prendre ou de posture, et ça, je trouvais que c'était hyper intéressant pour ce sujet-là.
Puis aussi, en tant que vulgarisatrice scientifique, le format podcast, qui est de plus en plus un format d'apprentissage, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé comme tel à ce moment-là ou
Alors, ce qui est très très rigolo, ce qui s'est passé, je l'ai un peu découvert au fur et à mesure des épisodes. Moi, au départ, je m'adressais franchement à un public. Un peu proche de moi, entre guillemets, dans l'idée que je pensais m'adresser à des personnes un peu geeks de la biologie, déjà intéressées par ces sujets, pour lesquels ça allait faire écho et que ça allait, dont ça allait piquer la curiosité. J'espérais le rendre suffisamment accessible pour que ça entraîne de plus en plus de personnes qui sont pas initiées au sujet à se dire, bah tiens, dès les premières minutes, je me sens pas exclue, ça peut s'adresser à moi, donc je vais écouter l'épisode. Il est court, il dure 10 minutes et il est quand même régulièrement entrecoupé de passages un peu plus léger pour créer un peu aussi de respiration mentale. Et en fait, mon énorme surprise, ça a été le jeune public. Et donc, ouais, non, en fait, ce qui m'a surpris par la suite, c'est que j'ai commencé à avoir des retours, moi, de la part de certaines familles qui l'écoutaient à plusieurs, dont des plus jeunes, et qui me disaient, mon fils adore ça, ma fille adore ça. Donc, j'essayais de comprendre au début, mais quel est le profil de ce genre-là? Est-ce que c'est des petits geeks de la bio, justement? Est-ce que c'est des gens qui, comme moi, sont fans de singes ou de dinosaures ou... Parfois c'était le cas, parfois c'était plutôt des enfants curieux, effectivement, qui comprenaient pas tout, parce que franchement, mon ton n'est pas du tout adapté, on va dire, à un public très jeune, mais qui, ça allait générer des conversations, comme l'épisode de dire 10 minutes. Les parents, à la fin de l'épisode, avaient des questions auxquelles répondre auprès de leurs enfants, donc parfois me les posaient à moi, et même auprès de mes proches, c'est très rigolo. Mon filleul, par exemple, très souvent après un podcast, il a 5 ans. Et il va s'enregistrer sur WhatsApp avec le portable de sa maman pour me poser des questions. Donc je vois qu'effectivement, il y a des choses, il ne retient pas tout, mais qui résonnent. Et ça a amené d'ailleurs en fait un hébergeur de podcast pour enfants qui s'appelle Kikou et qui m'a demandé, quand on s'est croisé à un festival de podcast, si ça m'intéressait d'être sur leur plateforme. Au début, je lui ai dit de manière assez transparente qu'il n'était pas forcément adressé aux enfants, que même si l'univers était un petit peu... Sonore, où il y a des voix d'enfants qui posent des questions, notamment il y a un univers un petit peu d'émerveillement enfantin. Il se trouve quand même que le contenu n'est pas vraiment adressé à eux. Et il m'a dit, écoute, je vais le tester dans la catégorie des plus de 8 ans ou de 10 ans si mes souvenirs sont bons. Et visiblement, il a vraiment considéré qu'il y avait un public de tout petit pour ça aussi. Donc ça me fait aussi réfléchir sur l'aspect pédagogique dont tu parlais. Je pense qu'effectivement, même si on s'adresse pas directement à une cible particulière, donc par exemple aux enfants, on peut imaginer que ça résonne.
Oui, tout à fait. Et en même temps, l'immersion sonore est très présente dans tes épisodes. Donc, d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui fais de l'écriture sonore?
Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, d'un point de vue de A à Z, aujourd'hui, c'est un podcast qui se fait encore sur, on va dire, sur du temps libre, sur souvent le week-end, le soir, et c'est aujourd'hui moi qui ai appris un peu à monter de manière la plus efficace possible, mais franchement, ça reste quand même assez artisanal. Mais oui, je cherche quand même à créer des sons et un univers pour créer, comme je te disais, entre différentes rubriques, on va dire, une certaine forme de respiration et pour que ça rende le contenu un peu plus facile d'accès. Mais oui, à 100%, là, je me suis un peu auto-formée là-dessus. J'ai pu profiter, par contre, j'ai vraiment eu la chance au tout début d'avoir une petite, on va dire, une petite masterclass, je vais dire, de quelques heures de Pénélope Boeuf, que tu connais sûrement,
Oui, bien sûr,
et qui est
ouais.
donc podcasteuse en France de référence avec son podcast L'Arnaque. Et elle, franchement, elle m'a plutôt aidée. Alors, elle m'a donné les premiers outils, un peu, tu vois, sur Audacity, etc. J'ai vraiment pu me familiariser avec l'outil grâce à elle. Mais je dirais que presque d'un point de vue ton et lâcher prise, j'aurais peut-être pris un ton un peu plus... Pas académique parce que c'est pas mon style, mais je me serais peut-être pas autorisée autant à rigoler, déconner, créer un univers un peu léger, en me disant mais quand même c'est de la science, il faut que ça soit quand même un minimum cadré. Et elle m'a un peu très vite enlevé cette idée-là en me disant mais en fait il faut que ça te ressemble. Toi quand tu me parles et que tu me racontes tes histoires, j'ai envie de t'écouter jusqu'au bout. Mais il faut que tu fasses pareil avec tes auditeurs, en fait. Il faut que tu t'adresses à eux comme tu t'adresses à moi. Et sur la première écriture, je me rappelle de la bande-annonce, elle m'avait aidée pour la bande-annonce. Plusieurs fois, elle me disait, mais c'est pas. Enfin, tu peux le dire de manière tellement plus à ta façon, avec des mots qui sont peut-être pas les plus évidents à lâcher comme ça sur un format qui va être écouté, mais c'est les tiens. Et en fait, je crois que ça m'a quand même enlevé un certain nombre d'injonctions ou de peut-être de freins au démarrage.
Ok. Là, ce que je comprends, c'est donc que tu prends en charge toute la partie technique du podcast. Du coup, tes sponsors, ce sont des sponsors de visibilité uniquement, des partenaires de
Plutôt aujourd'hui,
visibilité.
vraiment,
Ouais.
c'est un rôle de. Ça m'a permis aussi d'avoir un espèce de cadre et de leur permettre à eux aussi d'avoir une inscription dans ce nouveau format dans lequel ils n'étaient pas. Et moi, d'avoir effectivement, parce que j'ai pas du tout créé de communauté de manière très stratégique parce que j'en avais pas non plus forcément ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie. Le but, c'était pas de devenir podcasteuse non plus, hein. Du coup, j'ai vraiment profité d'un réseau, comme je te disais, proche, qui s'est élargi. Mais rien que dans mon réseau professionnel, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de personnes qui ont adopté le format assez rapidement.
Oui, c'est ça, parce que finalement, ta communauté, tu cherches pas à la développer tant que ça. Enfin, tu as une présence quand même sur les médias sociaux, mais tu n'as pas de page Instagram, tu as une page Facebook, LinkedIn. Sur LinkedIn, moi, je te suis, puisqu'on est connectées toutes les deux. Je suis à chaque fois impressionnée par la portée de tes publications, avec des 200, 300 likes. C'est assez incroyable. D'ailleurs, si tu avais quelques astuces à nous recommander pour atteindre un tel reach, ce serait apprécié. Mais c'est ça, c'est en fait, j'ai l'impression que les choses viennent plutôt à toi que l'inverse finalement.
En fait, la chance que j'ai, c'est que de pas. Enfin, je pense que pour certains podcasteurs, la difficulté, c'est que si tu le fais comme un espèce de tremplin et que ce soit entre guillemets, ton outil de départ, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine pression que tu te mets au démarrage qui fait que. Là, je parle sans savoir. Hein, je vais te théoriser les choses. J'en sais rien parce que j'ai pas été dans les deux cas de figure. Mais ce que je peux ressentir en parlant parfois avec certains podcasteurs qui se lancent et pour lesquels il y a un enjeu dès le début que ça fonctionne. Effectivement, je pense que ça peut générer une certaine forme de pression. Moi, je le compare c'est un peu nul hein, comme comparaison, mais que ce soit dans le couple ou dans le travail, tu es quand même parfois plus attractif si tu n'es pas, entre guillemets, en situation d'attente et d'avoir besoin,
Oui,
entre guillemets, de. Je ne sais pas si tu vois
tout
cette
à fait.
théorie-là, de. Concrètement, si tu es bien dans ton poste, genre dans ton couple, je pense que tu as une posture qui fait que tu peux effectivement avoir des personnes qui vont avoir envie d'en savoir plus, de t'écouter parce que tu n'es pas dans une urgence que ça fonctionne. Moi, j'ai la chance d'être salariée, d'avoir un boulot qui me plaît énormément déjà. Donc, comme je te l'expliquais, c'est vraiment un plus qui s'est proposé à un moment donné, à une période où je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Je ne vais pas te dire que je ne me serais pas vexée s'il n'y avait eu aucun écho. Sûrement que je l'aurais pris comme une forme de bon, personne ne l'écoute, personne ne réagit. Mais je l'aurais peut-être pas pris non plus comme une blessure narcissique ou un échec professionnel dans la mesure où un épisode, tu vois, je me serais arrêtée là, c'était pas non plus la fin de ma vie, quoi. C'était censé être aussi un format pour m'amuser. Et pour répondre à ta question, effectivement, je pense que sur les réseaux sociaux, donc je me suis pas vraiment investie dans des réseaux sociaux très classiques pour le podcast, qui sont effectivement plus Instagram, voire même Facebook. Enfin, je pense on peut vraiment muscler son audience en ayant des outils très très bien aiguisés là-dessus, et je t'avoue que j'ai pas du tout pris le temps encore de me pencher là-dessus parce que j'ai pas encore cette ambition, peut-être pour être honnête. Pour autant, sur mon LinkedIn, je trouvais ça intéressant de le partager puisque j'en parlais déjà autour de moi avec des professionnels qui sponsorisaient l'événement. J'avais envie aussi de leur rendre un petit peu ce travail-là, et c'est vrai que le seul exercice que j'ai fait pour pas créer du sentiment que je voulais juste vendre. Un format, c'est de à chaque nouvel épisode, juste de raconter en quelques mots, soit avec une anecdote rigolote sur l'animal ou la plante en question, soit avec une immersion au sein d'une découverte, juste pour que les personnes aient envie, si le sujet les intéressait, d'aller cliquer. Mais là aussi, je pense que ça s'est pas encore fait de manière très, très, très stratégique, encore design, etc. Je dirais juste que sur le contenu, je vois bien que plus, moins je réfléchis, entre guillemets, à entre guillemets l'impact que je veux avoir, mais plus m'amuser sur un contenu, ce qui m'a fait rire moi quand j'ai lu des publis, et prendre cette anecdote-là et la mettre en valeur sur un post, plus je sens que ça peut peut-être toucher des personnes nouvelles.
Ok. Est-ce que tu voudrais communiquer un petit peu sur tes chiffres d'écoute ou
Alors, ça fait un moment que je ne les ai pas regardés, donc là j'ai un peu honte, j'aurais peut-être dû préparer ça. Je sais que au tout début, les premiers épisodes, je devais être, je dirais, autour de 10 000 auditeurs
Ah oui.
pour les premiers épisodes. Il faudrait que je te dise si c'est le cas pour. Il n'y a pas non plus aujourd'hui, il n'y a pas une quantité
OK.
infinie d'épisodes. Je sais qu'au début, je pense que j'ai bénéficié un peu de ce côté. Puis les podcasts. En 2020, en plein confinement aussi, ça m'a aidé puisque les personnes elles-mêmes étaient en recherche de nouveaux contenus. Donc j'ai quand même pu profiter sûrement de cette vague-là de personnes je dois avoir des auditeurs un peu curieux qui sont allés une fois. Je pense que les plateformes, tu sais, comme dont celle dont je t'ai parlé pour les enfants, ça amène aussi du monde.
Ouais.
Des curieux aussi qui viennent peut-être aussi une fois. Ça aussi, je pense que je peux encore progresser, m'intéresser. Tu sais, avec des outils aujourd'hui, on peut aussi te dire quelle est la typologie de tes auditeurs et peut-être en tenir compte. C'est des choses que je compte faire. Peut-être pour le troisième confinement, je ne vous le souhaite pas, mais ce sera peut-être. Si ça se présente à moi, ce sera peut-être une nouvelle excuse pour aussi aller plus loin dans ces analyses-là, de comprendre qui t'écoute
Ok.
et s'il t'écoute jusqu'au bout, etc.
Bah, c'est une super performance parce que tu as enregistré 6 épisodes donc depuis avril 2020. C'est peu, on en redemande, Aïna. Est-ce que tu vas rester sur la même cadence en 2021?
Malheureusement, oui, je pense parce que c'est vrai, comme je te le disais, le fait de faire ça en plus d'un poste, je le fais vraiment sur mon temps libre, le soir, les week-ends. Et là, je pense que c'est franchement une question de discipline, mais je vais essayer. En fait, là, je suis déjà en train de réfléchir à la saison 2. C'est ça qui va, à mon avis, me recréer un moteur. Et en fait, j'essaie de voir un peu les choses différemment. Pour la saison 1 que je vais terminer d'ici peu, l'objectif c'était de donner un panorama des différentes plantes et des différents animaux ou bactéries auxquels on pouvait s'intéresser. Je voulais que chaque espèce puisse donner un panorama, une vision justement de toutes les applications possibles. Mais il n'y avait pas forcément de lien entre les épisodes. C'était un peu des épisodes qui étaient faits pour s'écouter de manière séparée, sans qu'il y ait de gros enjeux. Là, pour la saison 2, je suis en train de réfléchir à un fil conducteur un peu plus au sein d'une saison, avec une histoire qu'on raconterait un peu façon Il était une fois la vie. Je sais pas si tu regardais ce programme.
Oui, bah oui.
Et en fait, ce qu'il y avait de chouette dans mes souvenirs, c'est vraiment cette idée qu'on allait aussi aborder les grandes étapes de la vie sur Terre. Et ça me plaît beaucoup. Et en plus, je pense que d'un point de vue, on va dire, moteur, j'ai aussi une personne qui travaille à la fois au CEBIOS, qui est vraiment un centre d'excellence pour le biomimétisme, et au sein du muséum aussi, qui va peut-être aussi participer de manière plus active, qui était très, très, qui était très demandeur aussi de participer à ce type de format-là. Donc, je pense pouvoir aussi me reposer sur son expertise, parce que lui aussi a beaucoup de connaissances en tant que chercheur, et de par son expérience. Donc, je pense que la saison 2 va créer peut-être une façon pour moi d'aller chercher à écrire des histoires plus longues d'un épisode à l'autre. Donc à chaque fois, je pense qu'on gardera des épisodes courts, hein, de 10 minutes. Mais ouais, malheureusement, j'avoue que du fait de mon activité professionnelle, je ne peux pas aujourd'hui, si un jour je devais m'y consacrer à 100%, je serais capable de délivrer des épisodes de manière beaucoup plus régulière. Mais c'est vrai que là, je suis encore obligée un peu de faire le compromis entre les deux. Et là, j'ai très envie de m'y remettre. Ouais.
Est-ce que toi-même tu es consommatrice de podcasts?
Oui, énormément. Ouais, avant même de. Enfin, l'idée de me lancer dans ça, c'est parce que moi, j'en consommais énormément. J'ai arrêté de regarder la télévision il y a un certain nombre d'années. Du coup, j'étais plutôt branchée, moi, lecture ou parfois j'écoutais de la radio, mais sous forme de podcast. Mais tu sais, c'est un peu de la triche. C'est des podcasts
Ouais, c'est du
qui
replay, quoi.
reprennent une émission, voilà, qui reprennent une chronique que t'aimes bien, mais que t'as pas le temps d'écouter en live. Donc tu écoutes quand tu veux. Donc c'était plutôt ça que j'avais comme habitude jusqu'à on va dire 2017-2018. Et en fait, un des événements qui a fait que j'en ai consommé énormément, et là des podcasts un peu plus, on va dire, natifs ou d'indépendants, c'est mon déménagement. En fait, je devais faire plein de cartons. Enfin, c'était vraiment un gros déménagement à gérer. C'était des week-ends entiers sur lesquels je devais me consacrer à ça. Et j'étais frustrée de ne pas avoir la télé parce que, de toute façon, j'avais pas la télévision. C'est le seul moment où j'aurais eu envie de rallumer la télé pour, tu vois, avoir un truc un peu de fond et ne pas sentir les journées passer. J'avais pas de possibilité de lire parce que quand tu dois trier, tu ne peux pas lire. Donc je me suis remis à écouter beaucoup de chroniques radio et puis j'en ai fait vite le tour. Et là, j'ai commencé grâce à mon appli de podcast à aller chercher d'autres choses, d'autres contenus. Et j'en ai consommé, mais peut-être pendant 2 mois, une quantité impressionnante, mais surtout, mais vraiment sur des sujets qui n'avaient rien à voir entre eux, aussi bien sur le féminisme, sur le développement personnel, sur des sujets plus poussés en politique. Enfin, j'avais vraiment une consommation assez étrange de podcasts. Mais je sentais que ça me nourrissait. Enfin, c'était une façon de me nourrir aussi, de ne pas perdre ce temps-là. Et du coup, cette période, je la vis un peu comme une période où j'ai appris énormément de choses, tout en choisissant si je gardais cette assiette-là plutôt que ce. Enfin voilà, en ayant des considérations assez ennuyeuses, mais en étant nourrie de sujets hyper différents, quoi. Donc là, ça a été vraiment la période à partir de laquelle j'ai plus vraiment pu m'arrêter d'écouter et de découvrir des formats différents chaque semaine.
Et est-ce que ta consommation a décliné quand tu t'es mise à toi-même produire ton propre podcast? Parce que c'est souvent
Un
ce
tout
qui
petit
arrive.
peu. Ouais, un tout petit peu. Ouais, pour être honnête, franchement, oui. Ou alors, on va dire que je l'ai écouté différemment, mais effectivement, quand toi-même, tu. Parce que, enfin, faut dire ce qui est, pour même quand tu le fais comme ça, en plus à 100% de A à Z, tu passes tellement de temps et d'énergie à créer. Hein. Moi, c'est des épisodes minuscules et je peux y passer mes 2 week-ends entiers à plein temps. Donc, quand tu te dis que c'est pour à la fin, pour avoir 10 minutes, le rapport temps-investissement, des fois, il peut être un peu décourageant. Donc, ça dépend. Parfois, j'ai eu envie, au contraire, d'en écouter plein d'autres pour me dire que, quand même, c'était chouette de contribuer, entre guillemets, à créer ce type de contenu. D'autres moments où, franchement, tu peux être un petit peu en overdose, hein, pour être honnête, et tu peux avoir cette envie de plus mettre grand-chose dans tes oreilles, entre guillemets. Là, je suis, bah, justement, comme je suis dans une phase depuis les fêtes de fin d'année où je me consacre un peu à d'autres choses, là j'ai besoin de me reconcentrer sur d'autres thématiques. Je réécoute pas mal de podcasts et je sens que ça me redonne envie de réenregistrer. Donc ouais, pour moi, il y a des rythmes un peu différents en fonction des périodes de ma vie. Ouais.
Alors, qu'est-ce que t'écoutes justement?
Là, en ce moment, je ne saurais pas te dire quel est le déclencheur, mais j'écoute énormément de podcasts un peu, pas introspectifs, mais des conversations un peu. Passer par quelque chose avant qui était plus intellectuel, cérébral, où j'aimais bien à la fin, tu vois, avoir des petites choses à raconter aux gens. J'adorais dire que j'avais découvert quelque chose d'un économiste ou d'un sociologue, etc. Et là, en ce moment, je suis très branchée. Je pense que ça vient du fait que j'ai envie de relâcher après une journée de travail. Podcast un peu conversationnel, je pense à celui de Sophie Marie Larue, tu connais sûrement. À bientôt de te revoir.
Ouais, ben c'est vrai que je l'ai pas encore écouté, mais on en parle beaucoup, effectivement, en ce moment.
Écoute, c'est très 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 éloigné à la fois de ce que je peux consommer comme type de contenu à d'habitude et même du podcast que je produis. On est carrément à l'opposé. Mais c'est des conversations un petit peu sur tout, sur la vie, de tout et n'importe quoi. C'est presque dans le salon de ces personnes-là. Donc souvent, c'est une personnalité qu'elle interroge. Mais elle arrive à ne pas du tout leur parler vraiment de leur carrière, mais plutôt de leur rapport, je sais pas, à la nutrition, à la vie, à l'amour, à la mort, à tout, quoi. Ils peuvent parfois, de manière très franche, te parler d'épisodes dépressifs, de parler de tout. Alors, si je suis en train d'analyser en live, ça vient peut-être du fait que moi, mes amis, j'arrive encore à les voir malgré la situation, mais sûrement beaucoup moins qu'à une époque. Et peut-être que ça me donne ce sentiment d'avoir ce genre de conversation que tu as avec tes amis de manière plus fréquente, hors pandémie. Et du coup, je sais que je prends du plaisir à écouter ça. Il y a un autre podcast aussi qui s'appelle Les gens qui doutent, d'une chroniqueuse de France Inter qui s'appelle Fanny Ruet, si je dis pas n'importe quoi. Et là aussi, c'est très introspectif. Donc, ça fait un mois que j'écoute ce type de format-là. C'est des formats un peu longs, alors que d'habitude, j'étais plutôt format court. Mais c'est des formats que je prends du plaisir à découvrir là depuis peu. Donc, c'est ma phase du moment. Ça changera sûrement dans un mois.
Ok. Et parmi tout ce que tu as écouté, est-ce qu'il y a un ou deux incontournables?
En fait, il y a peut-être un format dont moi qui m'a été utile, qui est plutôt sur comprendre un peu la manière dont fonctionne ton cerveau et tes émotions. Donc c'est le podcast Émotions qui là-dessus est assez bien construit. C'est un mélange justement entre situations vraiment que tu peux vivre au quotidien et on va dire les coulisses de tout ça d'un point de vue plus scientifique. Donc ça, c'est vraiment un format que je trouve assez intéressant, riche et duquel t'as pas l'impression d'avoir réfléchi pendant toute l'écoute, mais sur lesquels tu peux avancer un peu aussi sur ta réflexion par rapport à différents sujets. Et dans la même lignée, je te donne, enfin, le sujet des émotions, c'est un sujet sur lequel je travaille moi personnellement aussi au niveau de mon boulot parce que je m'intéresse à la manière dont le fait de d'appliquer des produits sur la peau peut créer une sensation de bien-être, de perception de soi qui est modifiée. Donc c'est un sujet auquel je me suis intéressée il y a un peu plus de 3 ans et je travaille avec des chercheurs en neurosciences là-dessus. Donc ce format-là, c'était pas, j'avais pas l'impression de travailler quand je l'écoutais, mais forcément ça nourrissait ce travail aussi de fond. Et il y a un autre format du coup qui traite aussi des émotions mais de manière extrêmement différente. Et je peux pas te dire que j'adhère à tout à 100% sur le format, mais par contre à chaque fois j'en sors avec des éléments intéressants. C'est un podcast du coup plus sur le développement personnel associé aux émotions qui s'appelle donc Se sentir bien. Je sais pas si tu le
Non,
connais.
je ne le connais pas celui-là.
Et elle, je pense que sa cible, c'est plutôt des personnes qui ont besoin de savoir comment différencier leurs émotions de leurs pensées et des actions qu'elles mettent en place. C'est vraiment très axé, je pense, coaching et développement personnel. Moi, ce que j'en tire, c'est qu'elle va quand même à chaque fois faire un travail de synthèse sur comment est-ce qu'on est câblé, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce qu'on a peur du regard des autres, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces croyances limitantes. Et je pense que je suis moins adepte du côté développement personnel, tous les messages parfois un peu plus, pas de winner, mais
Ouais.
de coaching. Par contre, j'aime bien la manière dont elle peut présenter certains aspects. Et par exemple, comprendre pourquoi on a des moments où on procrastine, ça m'a libérée d'une certaine forme de comprendre que c'est un mécanisme, presque de protection, que ton corps, ton organisme a l'impression qu'il se passe quelque chose de grave et que c'est pour ça que tu n'arrives pas à te lancer et que tu crées une peur qui elle-même. En même titre que ton corps voudrait te protéger d'un saut en parachute et te dirait non mais tu peux mourir, il peut penser que si tu n'arrives pas à créer ce moment pour travailler et avancer sur cette tâche, c'est parce que tu es en danger, ce qui n'est pas le cas généralement, et donc te lancer des messages qui te permettent pas de dépasser cet état de procrastination. Et ce genre de messages, moi, peuvent m'aider à aussi comprendre comment nos émotions sont entre guillemets fabriqués, maintenus, etc. Donc le sujet des émotions, ces deux podcasts-là, je les recommanderais parce que je trouve qu'ils ont un angle très différent, un côté très scientifique, un côté très plus coaching. Mais moi qui m'intéresse à ce sujet par ailleurs, j'y ai trouvé matière avec vraiment pourtant une posture très différente des créateurs.
Ok. Aïna, pour terminer, est-ce que tu voudrais nous partager peut-être une ou deux anecdotes sympas ou un fail que tu aurais connu à travers ton expérience de podcasteuse?
Un fail qui est assez, qui est un des plus récents, mais qui a été quand même riche d'apprentissage. On en parlait, je crois, tout à l'heure en off, c'est concernant mon débit. Je parle vraiment vite de façon globale dans la vie. Je sais que je parle moins vite que quand j'étais ado, mais je continue à parler très vite. Et quand j'enregistre un podcast et que je veux garder ce naturel, je vais parler vite. Mais j'ai quand même essayé, comme j'ai parfois eu la remarque de personnes qui me disent, je trouve le contenu passionnant. C'est juste dommage. Moi, j'ai l'habitude d'accélérer des épisodes. Dans ton cas, à toi, j'ai plutôt parfois tendance à le ralentir ou faire une pause. Donc, quand on m'a fait ce feedback-là, je me suis dit, bon, bah, essaye peut-être sur de prochains essais, de prochains épisodes, d'être vraiment plus à l'écoute de ça et prendre un rythme plus lent. Donc, j'ai tenté ça et je l'ai fait écouter à mes proches qui m'ont dit, mais c'est pas toi du tout. Enfin, presque, je vais pas dire qu'on s'ennuie, mais. Je sais pas, c'est bizarre. Tous les épisodes d'avant, moi j'étais entre guillemets, je ne lâchais pas, j'avais l'habitude de t'écouter d'un bout à l'autre. Là, je peux plus décrocher parce que c'est lent. Enfin, et j'avais passé du temps à le faire. Donc sur le coup, j'ai vécu ça en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le poste quand même comme ça parce que c'est quelque chose de nouveau que je vais tester? Mais à force d'avoir quasiment l'intégralité des feedbacks qui étaient en train de me dire, mais c'est dommage, même si tu parles trop vite, ça reste quand même ta patte à toi et c'est comme ça qu'on arrive à écouter tes histoires. Ça m'a confortée dans l'idée que bah, malheureusement, même si je veux m'adapter entre guillemets et essayer de remplir le plus de critères, y compris celui du confort de l'écoute, si c'était pour perdre entre guillemets en intérêt et ne pas du tout garder l'attention des auditeurs, je n'étais pas encore prête à ça. Donc j'ai réenregistré l'épisode à ma façon, avec un petit peu moins de temps d'aération, de pause. Et quand je l'ai fait réécouter, c'était pourtant quasiment le même contenu, tu vois. Et là, ils m'ont dit, bah oui, ok, il n'y a pas photo, c'est ça qu'on veut entendre. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas être quelque chose que je vais retenter par la suite autrement. Grâce justement bah, à la communauté Podcast Maker que tu connais très bien, on a vraiment aussi la chance d'avoir des coachs. J'ai posé la question à une coach vocale qui m'a dit qu'effectivement, il y avait sûrement un exercice à faire autrement pour ne pas perdre en dynamisme et en naturel. Donc, je vais quand même y travailler. Mais c'est rigolo, c'est un des fails où je me suis dit, t'as tenté de faire la bonne élève, de prendre le rythme qui t'était demandé, et tes proches t'ont juste dit, bah, c'est dommage, quoi, on te reconnaît pas.
Ouais, c'était trop lisse, trop. Puis en plus, c'est sur des épisodes courts de 10 minutes, donc c'est vrai que ça s'écoute très bien en x1, c'est hyper pétillant, dynamique, ta signature sonore aussi est ultra dynamique, donc c'est vrai que ça a dû créer un décalage entre les deux.
Mais il y a des personnes qui aiment bien aussi prendre le temps. Je pense que c'est un public qui, ne, pour l'instant, ne me dit pas qu'il va s'écarter du contenu parce que je vais trop vite. Mais je pense qu'il y a des personnes qui adorent aussi avoir le temps de digérer chaque info, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, j'accepte aussi avec le temps de me dire si en fait, entre guillemets, mon style ou mon phrasé est pas adapté. En fait, je pense qu'ils trouveront d'autres formats qui le feront et c'est pas très grave. Il faut que j'y travaille et que j'en tienne compte parce que ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité de t'adresser au plus grand nombre. Mais ouais, j'ai plutôt écouté, enfin, j'ai fait confiance au fait que dans la vie de tous les jours, je peux pas maintenir ce rythme-là et je dois me faire un cercle d'amis, de professionnels, de personnes qui sont capables de supporter ce rythme, quoi, entre guillemets.
Super, bah écoute, merci beaucoup Alina. Est-ce que tu peux nous rappeler les liens pour écouter ton podcast? Est-ce que tu as une newsletter? Comment on fait pour suivre ton actualité?
Alors, le podcast Bioinspi, donc, il va être disponible sur toutes les plateformes, Acast, Spotify, Deezer. On peut le trouver sur tous ces formats-là. Donc, comme je disais, pour les parents qui veulent découvrir ce podcast-là au travers de plateformes pour enfants, ils peuvent passer par Kikou aussi. Donc, il y aura d'autres formats aussi sur les animaux, sur d'autres histoires qu'ils pourront découvrir.
Kiku qui s'écrit Keeku, hein.
Tout à fait. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres moteurs de recherche qui m'ont proposé de le mettre, mais j'avoue que je ne les ai plus en tête. Mais je sais qu'il est disponible sur d'autres plateformes aussi. Moi, j'avais lancé au tout début du podcast une chaîne YouTube qui n'est pas forcément alimentée parce qu'elle n'est pas en plus non plus adaptée au format audio comme tu dois le savoir. Pour autant, elle existe et les épisodes sont aussi retranscrits là-dessus. Et non, dans ce cas, si les personnes sont intéressées pour en savoir plus de façon globale sur ce contenu-là, moi, je les invite soit à me suivre sur LinkedIn, c'est là que je suis la plus active, donc Aïna Kairos, effectivement. Ils pourront suivre aussi les coulisses parfois d'un épisode où je présente parfois certains chercheurs avec lesquels je discute parce que mes épisodes sont construits avec des chercheurs spécialistes des sujets en question. Sur Facebook, je suis moins active, mais il y a effectivement une page qui avait été créée. Moi, j'invite les personnes à me suivre plutôt sur les plateformes classiques ou sur LinkedIn s'ils veulent en savoir plus sur mon travail et sur les sujets qui m'animent.
Ok, donc pas de newsletter pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas développer par la suite ou pas nécessairement?
Écoute, j'en rêverais, mais je te dis, je pense qu'aujourd'hui, c'est.
C'est le temps.
Ouais, vraiment, c'est le temps, comme pour beaucoup de personnes qui sont salariées et podcasteurs en plus, entre guillemets, c'est vraiment le temps qui va me manquer. Mais dans un monde où j'arriverai à m'y consacrer de mieux en mieux et à être peut-être de plus en plus rapide, pourquoi pas?
Super, bah merci beaucoup Alina.
Merci à toi, Charlène.
À bientôt.
À bientôt.